Bien. Alors, une fois n'est pas coutume aujourd'hui, donc c'est moi qui vais assurer le séminaire. Le séminaire est quand même avant tout conçu comme un lieu de dialogue et où je, contrairement au cours, je peux faire parler des collègues. C'est ce que je compte faire la plupart du temps. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai un dossier un peu plus pointu sur lequel je voudrais attirer votre attention. C'est ce qu'on appelle la maison carrée à Nisa. Alors, maison carrée, évidemment, en France, ça nous rappelle quelque chose. Oui, alors on dit, on a, pendant très longtemps dans les publications, en général, on l'appelle la trésorerie. Ce que clairement elle a été à la fin de son existence. Mais cette fonction est remise en cause maintenant pour l'origine du bâtiment et donc on adopte le terme moins compromettant de maison carrée. Alors on voit que son emprise sur le site est absolument énorme puisque en fait elle est aussi grande, surtout si on compte les annexes construites ensuite, elle est aussi grande que trois des bâtiments monumentaux de la partie centrale. On a l'impression, enfin c'est une remarque que me faisait Claude Rapin, qu'elle est alignée peut-être sur cette partie du palais, enfin des parties supposées résidentielles, donc peut-être y aurait-il eu un lien, ça aurait été construit au même moment. D'un autre côté, l'alignement peut tout simplement aussi être dû aux contraintes du relief de cette partie de la ville. Alors, par sa taille, 22 mètres, 60 mètres sur 60 mètres, donc les proportions sont fort impressionnantes. La voici dans son dernier état. Au départ, il n'y avait que ça. Hein. C'était extrêmement régulier, trois pièces de chaque côté avec des rangées de colonnes au milieu. On a ensuite rajouté un agrandissement en façade exactement sur le même modèle architectural, puis un agrandissement sur le même modèle architectural sur le côté, et puis diverses annexes un peu partout. Ces annexes-là, particulièrement intéressantes, puisque c'est là où était stocké le vin, qui jouait évidemment un rôle important dans toute l'économie de la ville, pourrait avoir été en contemporain, peut-être même antérieur à la trésorerie. Alors, on a donc 12 pièces, au départ 12 pièces identiques formant trois ensembles communiquant les uns avec les autres. Et plus tard, donc on rajoute ça, et on rajoute aussi des... On mord sur la cour, voilà. Au départ, la cour comportait un péristyle. Alors, construction du 54, oui. Voilà comment on restitue les pièces intérieures, avec là une poutraison portée par des rangées de colonnes ioniques, des colonnes qui n'étaient pas en pierre, mais qui avaient des bases en pierre et des colonnes étaient en bois. C'est une construction très soignée, qu'on peut dire modulaire. Voilà, vous voyez, c'est parfaitement modulaire puisque les diagonales en fait tombent à des angles significatifs. C'est pas de la construction empirique, c'est de la construction d'architecte. Ça a été conçu sur plan avant d'être monté sur le sol. Alors, la trésorerie est un cas vraiment intéressant parce que elle montre comment un nouveau schéma interprétatif surgit brusquement peut complètement bouleverser toutes les certitudes acquises. Pendant longtemps, c'était clair, c'était une trésorerie parce que ça paraissait tout à fait évident par le contenu. On l'a retrouvé donc dans son dernier état, avec certaines pièces vides. Je serai amené à revenir là-dessus, celles qui sont marquées d'une croix, mais d'autres formant donc des ensembles par leur contenu. Dans la salle 11, il y avait les fameux ritons. Dans la salle 12, des petites statues grecques. Dans la salle 18, il y avait des monnaies, des petites sculptures. Bon, voilà. Évidemment, voilà, la situation retrouvée par les archéologues, c'est la situation ultime après déménagement, après pillage. Alors, on a par exemple des objets en métal qui ont été retrouvés, des objets en métal et des armes, mais donc on soupçonne qu'il y en avait beaucoup, mais on en a retrouvé assez peu, et justement pas dans les pièces, mais dispersés dans la cour et autour. C'est-à-dire que ça intéressait les pillards. Ce qu'on a retrouvé pour ces hommes. On a retrouvé dans les pièces ce qui n'intéressait pas les pillards, notamment les ritons. On va voir bientôt pourquoi. C'est que ça ne pouvait pas resservir. Eh bien, pour eux, c'est ce qu'il y a de plus beau. Pour eux, ça ne les intéressait pas, ça ne pouvait pas resservir. Les armes et les métaux et les pièces, ça pouvait resservir. Et du coup, ce qu'on a retrouvé, c'est ce que les pillards ont laissé derrière eux dans leur fuite. Bien. Par ailleurs, donc, dans l'annexe, dans l'annexe Est, dont on ne sait pas exactement à quel moment sa construction se situe dans l'histoire du bâtiment, on a plutôt l'impression que c'est avant la construction de cette pièce supplémentaire, que c'est antérieur à ça. On a 9 grands celliers. On sait que c'était des celliers, puisqu'on y retrouvait déjà Ravin, qui étaient, la grande majorité des ostracas, des étiquettes sur tessons qui vont vous être présentées la prochaine fois, servaient, en fait, étaient recyclés et servaient à caler les jarres à vin dans la dernière phase de fonctionnement. Et les étiquettes mentionnent 9 celliers dans la trésorerie, et ce qui correspond aux 9 pièces qu'on a retrouvées par la fouille. En fait, une fois qu'on a dit que c'était une trésorerie, les choses ne sont pas si simples, même si on se situe à l'intérieur de l'interprétation trésorerie. C'est un dossier de police scientifique. Pour quelle raison ? La totalité, toutes les pièces de toutes les époques ont été retrouvées scellées par des écrans de briques qui portaient dans certains cas des sceaux. Donc, c'est exactement le roman de Gaston Leroux, Le mystère de la chambre jaune. La scène du crime, en l'occurrence, si crime il y a, ce serait le pillage, est fermée de l'intérieur. Il faut comprendre pourquoi. Et là, je peux vous dire que l'imagination a vraiment, vraiment, s'est envolée considérablement jusqu'au moment où un article de Paul Bernard, comme d'habitude, est venu un peu calmer les ardeurs. Tout de suite, évidemment, quand il y a mystère archéologique, des choses qu'on ne s'explique pas, qu'on n'arrive pas à expliquer d'un point de vue vraiment rationnel, c'est là où l'explication rituelle vient s'engouffrer. Et là, comme on avait des objets qui n'étaient évidemment pas banals, notamment les ritons, ça sert à servir du vin, mais ça peut aussi servir à faire des libations, on s'est lâché. Voilà, on s'est lâché. Alors, la totalité des fouilleurs soviétiques, sauf, je crois, Pilipko qui ne s'est pas prononcé, ont considéré que ces ritons, donc ces cornes à boire, servaient certes à contenir du vin, mais qu'ils étaient utilisés pour des libations dans des rituels en hommage aux rois successifs. Alors, les ritons tels qu'on les a trouvés, tous ensemble dans une seule pièce, il y en avait 50, et un des plus beaux spécimens. Alors, cette interprétation rituelle s'est décliné selon diverses modalités, selon les auteurs. En général, on lit que ce sont des rituels qui étaient liés à l'allumage du feu personnel du roi au moment de son avènement. Ça, on sait qu'au moment où un roi iranien montait sur le trône, on allumait un feu personnel. On le sait par des inscriptions sassanides. La question étant de savoir si à sa mort on éteignait ce feu ou si ce feu restait allumé. À l'époque sassanide, il est assez net que ce feu reste allumé et l'objet d'un culte. Aux époques antérieures, La question peut se poser. La question peut se poser. Il y a un texte qu'on invoque tout le temps. La nuit où Alexandre meurt à Babylone, les autorités demandent à tous les habitants d'éteindre les feux partout. Donc, cette idée que peut-être on aurait éteint à ce moment-là aussi le feu du roi. Ces rituels avaient lieu au moment de l'intronisation du roi, où on allumait son feu. Et puis, quand le roi était mort, après l'accomplissement des rites funéraires, ce mobilier était enfermé et on n'y touchait plus. Il était retiré de l'usage mondain. Alors, Koshelenko a présenté une variante plus raffinée. Il est tombé sur un renseignement sur Suse transmis par Strabon, 11.3.21, selon lequel, à Suse, chaque roi achéménide avait fait construire son propre palais et sa propre trésorerie. Ce qui est vrai, puisqu'on a maintenant à Suse trois palais achéménides. Donc, Koshelenko est parti de là pour penser que la trésorerie personnelle, chaque pièce de la grande maison carrée de Nisa aurait été la trésorerie personnelle de l'un des rois et qu'à sa mort, après l'accomplissement des rituels, on en condamnait le contenu, d'où les écrans de briques. Bon. Cette condamnation successive des pièces expliquerait les écrans de briques dans les portes, les scellés, et aussi le fait qu'il fallait faire des extensions, puisque certaines parties de la trésorerie devenaient condamnées. Pour qu'elles continuent à jouer son rôle, il fallait s'étendre au sud, ce qui a été fait. Bien. Il y a quand même une objection qui vient tout de suite à l'esprit. Si chaque pièce était la trésorerie personnelle d'un roi, pourquoi le contenu des pièces n'est pas homogène d'une pièce à l'autre ? On s'attendrait à trouver plusieurs catégories de matériel dans chaque pièce. Or là, on a l'impression qu'il y a un roi qui était un grand amateur de ritons, il y a un roi qui était un grand amateur de petites statues grecques en marbre, il y a un roi qui était grand amateur de pièces de monnaie, ça ne colle pas. Bon. Alors, il y a quand même deux arguments massus qui méritent considération à l'appui de l'hypothèse rituelle. Dans la cour se trouve ce qu'on a considéré comme un autel, c'est-à-dire ceci, n'est-ce pas, une demi-colonne en pierre avec un décor, je crois qu'il est peint, oui, il est peint, de festons, donc on voit que c'est comme un autel à la grecque qu'on orne avec des fleurs. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où ça s'arrêtait en haut. Donc, voilà. Un autre argument. L'un des ritons sur 50 porte une inscription grecque, Hestias, donc la déesse du feu. D'où CQFD, si on a la déesse du feu mentionnée en grec sur un riton, c'est que si on traduit en iranien, c'est destiné à une libation au dieu Adour, le dieu du feu, et on revient avec nos feux personnels du roi, ou un rituel du feu en liaison avec le rituel funéraire, etc. Alors, ça, c'est l'interprétation Koshelenko qui est donc le point suprême du raffinement. Alors, il y a d'autres interprétations qui ont couru dans la totalité de la littérature soviétique sur Nisa. Alors, on aurait en fait commémoré, les pièces seraient restées en fait accessibles un certain temps, ça n'était pas les trésoreries individuelles des rois. Tout ce matériel, enfin au moins une partie de ce matériel, au moins les ritons, était utilisé dans la cérémonie funéraire et les cérémonies commémoratives, puisqu'on sait que dans le zoroastrisme, on commémore le défunt chaque mois après sa mort, puis chaque année à l'anniversaire de sa mort, et au bout de 30 ans, tous les 30 ans. Donc ça aurait servi à ce moment-là. Bien. On mobilise aussi un grand absent, mais on va voir qu'il n'est pas si absent que ça dans l'archéologie du site. Ce sont ces tombes royales dont nous parle Isidore. Elles étaient quelque part, et s'il y avait des tombes, voilà, ces libations fonctionnaient en liaison avec un système à trois avec trois sites, donc la trésorerie sacrée, où il y a un autel, les tombeaux des rois, et puis quelque part peut-être un temple du feu, et avec ça, on reconstitue un complexe complet de culte à l'iranienne. À l'appui quand même, ce qui montre tout de même que les ritons n'étaient pas destinés à servir qu'une fois, c'est qu'ils ont été réparés. Et certains portent des traces d'usure assez fortes. Donc il est évident que ces ritons ont servi, et qu'ils ont servi longtemps. Alors, en 1979, arrive Paul Bernard, c'est un grand coup de tonnerre dans le ciel serein de ses interprétations rituelles. Il publie un compte-rendu du livre de Kochelenko, et puis dans les années, en 85 et 90, il publie deux articles absolument retentissants sur les ritons. Alors, le compte-rendu de Kochelenko, il discute la question de l'interprétation de la vie architecturale de cette trésorerie. Pourquoi les extensions? Pourquoi les bouchages? Et là, il parle en tant que un archéologue qui, en Asie centrale, a eu à gérer des problèmes de magasins. Et donc, c'est une expérience que Henri-Paul Francfort a également connue, que j'ai connue aussi. Nous avons, pendant des années, sur le terrain à Ahiranoum, fonctionné comme des fonctionnaires des rois arsacides ou sassanides, avec exactement les mêmes contraintes techniques et les mêmes habitudes. Nous avions à gérer des magasins que nous laissions derrière nous entre chaque saison, des magasins construits en briques crues. Chaque pièce ou chaque magasin avait un responsable personnel. Bien. Et quand nous partions, nous fermions les magasins, pas avec des portes. On faisait construire des écrans en briques. Et on mettait un scellé. Bon, ce n'était pas le sceau de Paul Bernard, c'était un bout de papier. Et puis, quand on revenait l'année d'après, on faisait sauter l'écran en briques. Tout simplement, ça coûte moins cher que des portes. Dans un pays où l'architecture de briques crues est généralisée, c'est la façon la plus simple de faire une fermeture, et on peut parfaitement apposer dessus un scellé. Donc, les bouchages n'étaient jamais définitifs, selon Paul Bernard à Nisa, c'était tout simplement les substituts bon marché de portes. Alors, on va comprendre alors avec le... Oui, 55, je reviens à 55. Donc, il faut supposer qu'en réalité, ces pièces sont restées accessibles, la plupart de ces pièces sont restées accessibles tout le temps. Et on bouchait. D'ailleurs, alors, ce qui confirme cette interprétation, ce n'est pas seulement notre pratique contemporaine en Afghanistan, c'est ce que nous avons trouvé à la trésorerie du palais d'Ahiranoum, où certaines portes avaient été bouchées et les pillards avaient fait sauter les bouchages des portes, mais simplement en faisant des brèches dedans, alors que l'administration, quand elle fonctionnait, démontait les bouchages. J'ai moi-même fouillé l'arsenal d'Ahiranoum, c'est exactement la même chose. Les pièces, on pense que la ville est peut-être tombée aux mains des nomades, au moment où l'armée grecque était partie en campagne en Inde, et donc ils avaient quasiment vidé l'arsenal, et ils avaient bouché les portes derrière. Alors, problème à la trésorerie de Nisa. Dans ces locaux bouchés, il y en a plusieurs qui ont été retrouvés complètement vides. Alors, on peut imaginer qu'on va boucher et mettre les scellés sur un local qui contient des choses précieuses, mais pourquoi sur un local vide? Mais si on interprète ça du point de vue administratif, c'est la manière dont le fonctionnaire chargé de la trésorerie va se couvrir. C'est une façon de dire, cette pièce est vide, non pas parce qu'elle a été pillée et que j'ai fait preuve de négligence, cette pièce a été vidée sous mon contrôle. Et donc, on la bouche et on met les scellés. C'est évidemment comme ça qu'il faut comprendre le fonctionnement de cette trésorerie. Alors, du coup, ce qu'on a retrouvé sur place, est en fait un matériel qui a fait l'objet d'une sélection négative. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans ces pièces qui ont été vidées consciencieusement, parce que ces pièces-là n'ont pas été vidées par les pillards, puisqu'encore une fois, elles ont été retrouvées scellées et bouchées. Elles ont été vidées par l'administration Arsacide. À un certain moment, on va penser, peut-être à partir du 1er siècle de notre ère, quand la ville n'est pas vraiment abandonnée, mais n'est plus régulièrement fréquentée par la cour. Ce qui peut être utile est déménagé ailleurs, dans d'autres sites, d'autres palais. Je mettrai ma main à couper que dans ces pièces, et je pense que ce serait aussi l'avis de Paul Bernard, il y avait les métaux précieux, les ressources en numéraire, l'or, l'argent, ce qui comptait, ce qui pouvait être réutilisé et ce qui devait partir dans les nouveaux centres du pouvoir arsacide, peut-être plus à l'ouest en Iran. Donc, ce qui est resté, c'est du rebut. Et dans le rebut, il y a les ritons. Parce que les ritons en ivoire, bon, alors, d'abord, ils ont pu passer entre les beaux jours du début de l'époque de Mithridate, où les rois partent, s'affichent, filent l'aine et affichent leur culture grecque, et les arsacides plus tardifs, qui n'ont pas l'air d'être tout à fait au même niveau culturel, au moins grec, la mode de ces magnifiques ritons d'ivoire a pu un peu se perdre. Et puis ils étaient usés, ils avaient été réparés. L'ivoire surtout travaillé comme ça, c'est-à-dire pas très épais, pour faire simplement des parois de corne à boire, c'est pas réutilisable. Donc c'est resté. Voilà. Les petites statues grecques en marbre, à partir du moment où ça donnait pas suffisamment de pierre pour intéresser les fours à chaud, c'est pareil, on les ramassait pas, ça restait. C'était lourd, ça n'intéressait personne. Ce qui intéressait les pillards, ce qui intéressait l'administration et qui intéressait les pillards, c'était pas le patrimoine culturel de l'époque de Mithridate Ier, c'était les métaux. Donc, évidemment, là, je pense que le raisonnement est absolument irréfutable. D'ailleurs, depuis la parution de cet article de Paul Bernard, on n'a plus vu réapparaître dans la littérature ces histoires de bouchage rituel, etc. Quant au fameux autel, c'est semble-t-il pas un autel, mais tout simplement une colonnette ornementale, c'est d'ailleurs de la dernière phase. On ne sait pas très bien pourquoi on l'a faite. On va voir plus tard qu'il semble qu'on voit des indices, peut-être des rituels de désécration au moment où la ville est finalement abandonnée du point de vue administratif. Ça pourrait être lié à ça. Toutes ces interprétations antérieures s'écroulent et peuvent parfaitement se ramener à des questions de routine administrative ordinaire. On pourrait penser que le dossier de la trésorerie peut maintenant être refermé. Il ne l'est pas pour deux raisons. Il y a eu une remise en cause de la fonction première du bâtiment et une remise en cause vraiment intéressante et argumentée, premièrement. Et deuxièmement, il y a encore tout un débat en cours sur les ritons. Pas seulement sur leur fonction, mais sur leur lieu de production, le contexte dans lequel ils sont arrivés ici. Alors, la remise en cause de la fonction initiale de la trésorerie. C'est Invernizzi qui... je distribuerai prochainement en fait, une orientation bibliographique. C'est un des articles parus dans cette revue Partica, que les Italiens ont créé spécialement autour de leur mission de Nisa, sur un article qui s'appelle, enfin sur la fonction la première fonction de la trésorerie de Nisa. Invernizzi part de plusieurs observations. pour une trésorerie, c'est vraiment très grand, c'est vraiment très monumental, c'est vraiment très bien construit. Pourquoi tant d'efforts pour un bâtiment qui... pourquoi tant d'efforts de beauté architecturale qui ne pouvaient être appréciés que par des fonctionnaires de bas étage chargés de gérer les magasins et les esclaves. À partir d'une trésorerie, ce n'est pas un lieu public par définition. C'est même justement le moins public de tous les lieux d'un ensemble palatial. Pourquoi un portique en péristyle, même s'il est en bois, au milieu de la cour? Ce n'est pas un endroit où on se prend. À Hiranoum, à côté de la trésorerie, on a trouvé une cour dorique. Mais ça, on a une explication à proposer. La trésorerie d'Hiranoum contenait des manuscrits grecs. Et autrefois... dans l'Antiquité, on ne lisait pas assis sur une chaise, on lisait en marchant et à voix haute. Donc la cour dorique aurait été le promenoir des lecteurs. Bon, là, on n'a pas d'explication. Alors, maintenant, les banquettes. Évidemment, on a pensé, les banquettes, ça sert à poser ce qu'on stocke dans la trésorerie. Enfin, ce n'est pas vraiment... ce qu'on aurait l'idée de construire pour un magasin de stockage. Ça fait énormément de place perdue, en réalité. Dans une trésorerie, ce qui est fonctionnel, c'est des étagères. D'ailleurs, dans la trésorerie d'Hiranoum, fouillée par Claude Rapin, il n'y a que peu de bâtiments, peu de pièces qui ont des banquettes. En général, on pense que c'était tout simplement des étagères. À l'arsenal d'Hiranoum, je n'ai pas trouvé de banquettes. J'ai trouvé des indices d'étagères tombées. Et on voit en fait qu'on a plutôt l'impression de banc, de banquette fait pour s'asseoir. Bon. N'oublions pas non plus le contexte. On est près de, donc, à côté de ce bâtiment, se trouvaient des celliers à vin. Et par ailleurs, dans la même pièce que les ritons, on a des éléments de mobilier en ivoire qui sont en fait, on a dit au début, c'est le trône de Mithridate. Ce n'est pas le trône de Mithridate. Ça, à nouveau, c'est Paul Bernard qui l'a montré. Ce sont des éléments de trois pièces de mobilier qui servent dans des banquets. Ce sont des lits. On mangeait à la grecque. À la grecque aussi bien qu'à l'orientale, on mangeait couché. Ce sont des tables, des chaises sans dossier, et ce sont des tables basses. C'est-à-dire que c'est exactement le mobilier d'une salle de banquet. Et les ritons font partie du mobilier de la salle de banquet. Conclusion tirée par Invernizzi, c'est certes devenu une trésorerie à partir d'un certain moment, mais... au départ, ça ne l'était pas. C'était construit pour être ce qu'il appelle un local pour des symposia, c'est-à-dire des grands banquets offerts par le roi Arsacide quand il était en visite, pour honorer un certain nombre d'hôtes choisis. Les banquettes servaient à s'allonger, les celliers étaient à côté, les ritons étaient sur place. Ce n'était pas manipulé individuellement, ça fait un litre ou un lait, c'est des magnums, ça fait un litre à un litre cinq. Donc c'est manipulé par un échanson. Donc on peut tout à fait imaginer comment tout ça aurait fonctionné. C'est assez séduisant, c'est à vrai dire assez séduisant. J'ai pas vraiment fait ma religion sur la question, je dois dire, mais je ne rejetterai pas cette interprétation d'Invernizzi sans appel. Alors, on peut se dire après, pourquoi est-ce qu'on aurait transformé ça en trésorerie? Bon, on peut imaginer un transfert de fonction, c'est-à-dire que les salles de banquet ont pu se réinstaller ailleurs, dans la ville. On avait besoin de locaux pour stocker au fur et à mesure que les richesses s'accumulaient. On aurait reconverti le bâtiment. Alors, ces banquets, on n'a pas non plus à les chercher très très loin pour les imaginer. Le banquet à la grecque comme le banquet à l'iranienne, ça se ressemblait beaucoup. Il faut déjà savoir qu'on y buvait des quantités à faire peur. Bon. On y buvait du vin pur à fort degré alcoolique qu'on mélangeait avec de l'eau dans des cratères. Une des raisons pour lesquelles, je crois, on a parfois condamné l'ivrognerie d'Alexandre dans l'Antiquité, c'est qu'il buvait le vin pur. Du point de vue iranien, on n'a pas de représentation véritablement de banquet royal, ni arsacide, ni sassanide. Enfin, non, on a des scènes d'audience, mais on voit parfois des représentations où le roi est allongé et mange, mais c'est toujours avec un seul personnage, qui est une femme, sur au moins un plat. Mais dans la bijouterie scythe, on a les fameuses scènes de fraternisation où vous voyez que ces deux personnages boivent dans une corne qui peut être en os, qui peut être en métal, qui peut être en céramique. Et ça a été remarqué depuis longtemps, l'artiste a un procédé qui permet d'exprimer la fraternisation, c'est que les visages peuvent se voir comme deux profils ou comme un seul visage de face. C'est-à-dire que ce sont deux convives qui, l'espace de la boisson partagée, n'en deviennent plus qu'un. La langue russe, qui ne manque jamais de ressources pour exprimer les usages de la boisson, a un terme très particulier et très approprié à cette situation, c'est « sobutelnik ». C'est-à-dire, les gens qui sont sobutelniki, ben, ce sont ceux qui vont acheter une bouteille de vodka au magasin du coin. Les bouteilles de vodka qu'on achète en Russie, comme vous savez, c'est jamais fait pour pouvoir être refermé, et qui vont la vider à deux. Bon. J'ai été amené dans les fouilles de Samarcande à trouver ce qui est probablement la preuve archéologique de cet usage du toast à deux. Ce sont des vases à pied douche, enfin des vases très élevés, un vase très élevé avec un pied très peu stable. C'était visiblement pas fait pour être posé, c'était fait pour être tenu, et le contenu était fait pour être vidé à deux. Sur le fond du vase, deux noms étaient gravés en soglien. C'était évidemment les deux amis qui avaient vidé ensemble un toast. Alors, évidemment, on doit imaginer que les grands banquets royaux se déroulaient d'une autre manière. Alors, on pourrait dire une objection possible, c'est pourquoi, si c'était les grands banquets offerts par le roi, ça n'était pas dans une seule grande pièce à la vue du roi. Pourquoi est-ce que c'était divisé entre plusieurs sections? Mais on a des... on voit que c'est exactement comme ça que semblent fonctionner des salles de banquet qui sont par ailleurs attestées par l'archéologie. Je reviens à nouveau au palais de Vergina. Le palais de Vergina, c'est un exemple qu'il est tout à fait légitime d'invoquer quand nous discutons de ces palais d'Asie centrale, parce que c'est tout de même le cadre. C'est le cadre de l'adolescence d'Alexandre et de ses compagnons. C'est-à-dire que c'est vraiment la culture architecturale qu'ils ont amené avec eux. Bien. Alors, au palais de Vergina, on a donc cette supposée tolos, enfin, qui serait donc cette salle ronde qui serait une salle du trône. Et on voit en fait que ces pièces considérées comme des salles de banquet comportent des compartiments individuels. Il y a en fait, chaque salle comporte 20 à 30 places, selon la taille de la pièce, Il y a au total 13 pièces, donc on peut calculer environ 250 places. Je me suis amusé à faire un petit calcul. Anisa, si on attribue 2 mètres de longueur de banquette à chaque convive, ce que je dis est évidemment extrêmement spéculatif, mais c'est quand même des questions qu'on est obligé de se poser si on s'efforce de réfléchir sur la ligne proposée par Invernizzi. On arrive exactement au même résultat qu'à Vergina pour tous les paramètres. C'est-à-dire que le nombre de convives par pièce serait à peu près le même, une vingtaine. On a ici 12 pièces à Vergina, on en a 13. Et on aurait un nombre total de convives qui serait d'environ 250. Alors, est-ce que ce serait le chiffre, disons, coutumier de ceux que le souverain considérait comme ses proches, ses hôtes? On a encore une donnée qui va dans ce sens-là. Au moment de la conquête parthe à Babylone, un riche citoyen grec de Babylone, qui s'appelle Lysimaque, qui est probablement donc macédonien, convie à banqueter le gouverneur parthe et son entourage parthe. Et il y a 300 convives. C'est une information transmise par Athénée. Donc voilà, on arrive sur des chiffres curieusement récurrents qui permettent peut-être d'imaginer effectivement, disons, un ordre d'idées pour le nombre de convives des banquiers royaux. Alors, à un certain moment, ça a été considéré, si on considère qu'Invernizzi a raison, ça aurait été considéré comme insuffisant, d'où le rajout de ces 3 pièces, puis de cette pièce-là. Alors, on a d'autres données sur les chiffres des banquets iraniens anciens, mais ça s'applique à des circonstances différentes. Pour l'époque achéménide, ce sont les immenses banquets collectifs auxquels est conviée l'armée. Nous avons la littérature antique nous a transmis des chiffres qui sont de l'ordre de 12 000 à 15 000. Mais on ne parle pas de la même chose. Là, il s'agit des grands rassemblements militaires en plein air. Et les cuisines royales sont supposées nourrir ce qui est en fait une ville ambulante. Là, on se trouve dans le cadre aristocratique des... si on parlait en termes grecs, on dirait les philoi, les amis du roi. En termes iraniens, on pourrait aussi trouver un terme. On a un autre exemple qui est... On en aurait d'autres, hein, mais on a un exemple... La photo 27, de salle de banquet à Masada, le palais d'Hérode, au-dessus de la mer Morte. Là, ça a l'air plus élitiste parce que chacun de ces compartiments vaut pour une personne, on arriverait à une vingtaine de banqueteurs, c'est-à-dire le chiffre qu'on a pour chacune des 13 pièces de Nisa. Je fais remarquer au passage... C'est quelque chose qui m'a énormément frappé quand j'ai visité Masada il y a 3 ans. C'est que j'avais un peu l'impression de me trouver à Nisa, dans le palais. Le voisinage de ces structures monumentales carrées et rondes. Ce jeu sur les volumes. On est dans le cadre d'une architecture, d'époque déjà romaine, mais enfin encore hellénistique, et de souverains, Hérode est un souverain hellénistique, et un souverain hellénistique qui a eu des rapports étroits avec le monde parthe, même s'il n'en était pas politiquement l'allié. Je laisse ouverte cette question. On a le choix, en fait, entre l'idée qu'il s'agirait d'un local pour les symposia royaux ultérieurement transformé en trésorerie, et dans ce cas-là, ce serait quand même une lumière vraiment très importante sur comment fonctionnait ce site royal de la vieille Nisa, entre salle d'audience et salle de banquet, et puis quoi d'autre? Eh bien, rien. Bon. Le retour à l'hypothèse ancienne qu'il se serait agi dès le début d'une trésorerie. Alors, il y a aussi des arguments pour penser que la notion de trésor joue un rôle extrêmement important dans la conception même de la ville royale iranienne. On a un certain nombre de villes, généralement situées en situation un peu frontalière, dont le nom est en fait le nom iranien du trésor. Ce nom, c'est Ganj, la forme ancienne iranienne, c'est Ganzaka Gaznaka. La forme Pélévi, c'est Ganj, ça veut toujours dire trésor en persan, ou Ganzak. Alors, on a des villes qui s'appellent comme ça. Ganjé, la ville en Azerbaïdjan. Ghazni, en Afghanistan, c'est ce nom-là. Gazaka, une ville conquise par Alexandre aux extrémités tout à fait nord-est de l'Empire achéménide. Et quand on voit les contextes, on voit que cette notion iranienne de Ganj, c'est à la fois le trésor où se trouvent les ressources en métaux précieux, mais c'est aussi l'arsenal, disons au moins les armes les plus précieuses. Donc c'est vraiment ce qui doit être à tout prix protégé et contrôlé un maximum. Dans le roman d'Ardashir, le Karnamagi Ardashir, un roman donc Pélévi d'époque post-sassanide qui renvoie aux réalités du début de la dynastie sassanide, quand la concubine du roi Part trahit son maître et fait pénétrer le jeune Ardashir dans le trésor royal pour qu'il se serve avant de prendre la fuite, elle lui donne des vases en or remplis de perles et de pièces de monnaie, et également des armes de prestige. Donc on voit que le trésor, ce sont les deux. Or, il y avait des armes dans la trésorerie de Nisa. J'ai dit qu'on n'en avait pas retrouvé beaucoup parce qu'évidemment, elles avaient intéressé ou l'administration ou les pillards ou les deux successivement, mais il y avait des armes. Alors, bon, il ne faut pas non plus, disons, voilà, on a des arguments aussi pour penser que le trésor, la trésorerie, c'était quelque chose, ça pouvait être quelque chose de tout à fait exceptionnel. Malgré tout, enfin, si on prend l'exemple d'Aïranoum, voici le palais d'Aïranoum, on sera amené à y revenir, la trésorerie, c'est seulement ça. Donc, c'est vraiment en emprise architecturale par rapport au palais et par rapport à la ville. Ça n'est absolument pas comparable à ce qu'on a trouvé à Nisa. C'est par ailleurs beaucoup plus sobre. Il n'y a pas de colonnes. Ouais, c'est vraiment fonctionnel. Il y a très peu de banquettes, seulement dans deux pièces. Il y a une seule porte, parce que ça doit être évidemment contrôlé. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a aussi remarqué à l'édifice de Nisa. Et voilà, donc, le péristyle, il est ici. Et on a pu penser qu'il servait à la lecture de manuscrits précieux qui étaient entreposés ici. On ne peut pas dire ça pour l'édifice de Nisa, où le péristyle est à l'intérieur. Alors, je vais dire maintenant quelques mots, il me reste quelques minutes, sur la question des ritons, qui ont donc été trouvés dans la même pièce, sont une cinquantaine, avec en même temps voisinant avec d'autres éléments de mobilier de banquet en ivoire. Leur hauteur était donc de 30 à 60 cm, capacité 1 litre à 1,50 litre. Donc encore une fois, ce sont des magnums qui ne pouvaient pas être maniés par des convives individuels, mais seulement par des échansons. Paul Bernard, alors les ritons ont été publiés par les fouilleurs comme des objets spécialement commandés par les rois arsacides, pour les raisons rituelles que j'ai dit avant, exécutés sur place et dont les thèmes et les décors manifesteraient une réinterprétation de thèmes grecs en fonction d'exigences proprement iraniennes. Paul Bernard a réfuté cette interprétation dans deux articles que je donne dans la bibliographie d'orientation, un sur les poétesses grecques sur l'Hériton de Nysa, et un autre article qui s'appelle tout simplement « L'Hériton de Nysa, à quoi, à qui ont-ils servi ?» Il y a aussi un autre, il va directement à l'essentiel. Et puis, en même temps, un autre article de Pierre Chuvin sur les fêtes grecques sur l'Hériton de Nysa. Contrairement aux articles sur l'architecture de la trésorerie, enfin, la question des bouchages, ces articles sur l'Hériton n'ont pas rencontré un assentiment généralisé et la question fait encore vraiment l'objet de débats. Alors, ce que fait remarquer Paul Bernard, les sujets donc de ces ritons se répartissent en quelques catégories. Le principal, ce sont les 12 dieux de l'Olympe. On a par ailleurs des scènes dionysiaques, vous voyez, avec des processions avec des chèvres, des musiciens. Enfin, ce sont des scènes, disons, de caractère festif et théâtral. On voit que certains personnages semblent être des acteurs, mais dans une ambiance généralement dionysiaque. Alors, bon, il ne faut pas beaucoup se gratter la tête pour comprendre l'importance de sujets dionysiaques sur des vases destinés à contenir du vin. Les 12 dieux, ça c'est un problème particulier, j'en dire un mot. On a aussi les travaux d'Hercule, et puis dans un cas, sur un seul riton, on a une scène qui avait été interprétée comme les muses par les archéologues russes, et en fait Paul Bernard a complètement remis sur pied l'interprétation. C'est une sélection de poétesses grecques anciennes flanquant Hésiode, père de la poésie, qui est représenté avec ses attributs de berger, puisque Hésiode est supposé avoir été un berger. Ici, c'est la poétesse Corinne, et puis les autres, une avec un petit satyre, les autres ne sont pas identifiables individuellement, mais la conclusion de Paul Bernard, c'est que tout ce motif est la copie, disons, est le reflet passé par diverses copies successives de ce qui a pu être un monument grec. Il pensait même en Béotie, puisque un certain nombre de ces personnages appartiennent plus particulièrement à la Béotie, qui aurait figuré un groupe de femmes de lettres avec Hésiode. Qu'est-ce que ça vient faire sur un riton à Nysa? Eh oui, parce que là, vraiment, on peut se poser la question, pourquoi diable les Arsacides, même s'ils comprenaient le grec, qu'on est bien prêt, on sait qu'ils le comprenaient, auraient-ils éprouvé le besoin de commander pour l'usage privé particulier de leur cours un thème qui pour être goûté supposait une connaissance raffinée et profonde de la littérature grecque? Ça paraît pas très vraisemblable. Le thème des 12 dieux, c'est pareil, c'est un peu difficile d'en rendre compte en contexte arsacide. On sait bien que les dieux iraniens à l'époque arsacide sont représentés sous l'image de dieux grecs, mais ils n'ont pas un panthéon à 12 dieux, contrairement aux dieux de l'Olympe. Et le thème des 12 dieux de l'Olympe sur les ritons s'explique très bien dans l'hypothèse où ces ritons auraient initialement appartenu à un corps civique grec, une boulée ou un prytané, parce que l'image des 12 dieux est considérée comme le symbole de la concorde civique. Et donc, ça fonctionne dans un cadre de propagande politique civique grecque. Ça fonctionne très mal dans un cadre de propagande royale arsacide. Le riton inscrit Hestia, dont on suppose qu'il serait la preuve que ces ritons avaient été fabriqués pour servir au culte du feu en rapport avec le souverain arsacide défunt ou fraîchement intronisé. Oui, enfin, cette inscription Hestia se trouve sur un riton qui représente une chasse aux chèvres sauvages. on est un peu loin des thèmes funéraires zoroastriens. Tout simplement, il s'explique très bien par le fait que les banquets grecs s'ouvraient par des libations, des invocations à diverses personnalités divines, dont, on le sait, Hestia, qui en tant que déesse du feu, peut aussi présider au banquet. On a un texte, un hymne homérique d'époque hellénistique, qui dit ça très explicitement. Donc, les ritons seraient, cet ensemble de ritons, serait inexplicable dans un contexte de commande royale parthe, il serait une capture. Et je reviendrai, on retombe là sur le thème des objets et artistes itinérants qui peuvent se retrouver dans le cadre de ces grandes capitales royales. Ils auraient été en fait, bon, pour divers, par divers arguments, Paul Bernard pense qu'ils avaient été au ils auraient pu appartenir au départ à la boulet ou au Sénat d'une grande cité grecque, peut-être en Mésopotamie, donc conquise par Mithridate. Ils auraient été capturés, ramenés à Nyssa, et donc, ça c'est tout de même à ce moment-là une conclusion fort intéressante, on pourrait dire resémantisés. C'est-à-dire qu'ils ne sont, ils n'auraient plus servi que comme. Comme article de luxe destiné à impressionner les hôtes du souverain arsacide et en plus à manifester la victoire sur les Grecs, mais bon, servi à un public où on peut penser qu'assez peu de convives auraient été à même d'apprécier et de commenter le raffinement des sujets. Là, alors je dois dire, ça n'a pas fait l'unanimité. Les archéologues italiens sont revenus sur cette question des ritons de Nyssa plusieurs fois, et tout dernièrement, dans le cadre d'un des grands volumes publiés dans leur collection Nyssa Partica, alors, chaque sujet, chaque riton est analysé avec une énorme précision. Ils reviennent à l'idée d'une commande royale parte, avec des arguments qui, je dois dire, dont je dois dire aucun ne me paraît décisif. Un premier argument, c'est qu'il y avait bien des sculpteurs grecs à Nyssa. La preuve, les grandes statues d'argile crue qui n'ont pu être fabriquées que sur place, puisque l'argile crue, par définition, ça ne se transporte pas. Bon, mais on peut avoir des... Ils peuvent avoir fait venir des grands sculpteurs pour leur propagande, sans pour autant avoir fait venir aussi des ivoiriers. Bon. Le fait que, contrairement à ce qu'avait pensé Paul Bernard, ces ritons ont une certaine hétérogénéité technique et artistique, donc, mais là aussi, l'argument n'est pas absolument dirimant, même s'ils viennent de pillages en Mésopotamie hellénisée, ça n'était pas forcément un ensemble exécuté par le même artiste. Ces ritons manifesteraient dans le traitement des motifs certaines adaptations orientalisantes. Quand je lis « orient » ou « orientalisant » à propos de l'Antiquité gréco-latine, je me méfie énormément. Mon collègue Maurice Sartre qui faisait remarquer une fois, c'était d'ailleurs une soutenance de thèse sur les arsacides. La thésarde avait beaucoup utilisé le thème de les Romains, l'Orient, la perception de l'oriental, etc. Il dit, mais quel est le mot en grec ou en latin qui veut dire l'oriental? Il n'y en a pas. Ce mot n'existe pas. Les Grecs et les Latins avaient une conception des Perses, ils avaient une conception des Barbares, ils avaient une conception des Syriens, ils avaient une conception des Arabes. Ils n'avaient pas du tout une conception de l'oriental, qui est quelque chose qui, dans notre culture, est apparu au XVIIe siècle dans le cadre de la confrontation avec l'Empire ottoman. Bon. Donc, cette orientalisation des thèmes, bon, qu'on peut considérer comme un peu, disons, sinon malheureux, du moins vague, et de toute façon, un certain écart par rapport au modèle grec supposé peut parfaitement se comprendre si ces objets ont été fabriqués dans le cadre d'une cité grecque du Proche-Orient ou de Mésopotamie. Dernier argument, mais c'est le plus faible de tous, la matière première. Bon, évidemment, évidemment, chez les Parthanisiens, on est plus près des éléphants qu'en Mésopotamie. Cet argument ne vaut absolument pas parce que pour des commandes à très haut niveau de luxe, par des personnages tout-puissants, se procurer 50 défenses d'éléphants, c'était rien du tout. Par ailleurs, on sait qu'il y avait dans les parcs militaires des Achéménides, puis des Séleucides, des éléphants. Ces éléphants n'étaient pas éternels. Leur ivoire était recyclé. Et il y a toujours eu un courant qui alimentait en ivoire, depuis l'Inde, le Proche-Orient. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette question bien préoccupante, bien difficile, de tout ce qui tourne autour de la trésorerie de Nisa. Vous voyez que c'est un dossier qui est à la fois très riche et très ouvert. Je ne suis pas du tout en capacité de proposer une doctrine. J'ai mon idée sur un certain nombre de choses. On y reviendra la prochaine fois à propos de certains des bâtiments. Il y a beaucoup à attendre des discussions que nous aurons en février avec Invernizzi, qui va nous faire apparemment deux conférences, voire trois, puisqu'il va en faire une à la Séchac, semble-t-il, et Paul Bernard, que évidemment nous inviterons à cette occasion. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.